Vous écoutez France Culture.
Les informations signées Stéphane Hiscox. Stéphane sera de retour à 9h pour un autre journal. Bonjour à toutes et à tous.
Je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Je ne vous citerai jamais, même comme source anonyme, vous resterez en eau profonde.
Aucun journal ne devrait ou ne voudra jamais publier cette histoire. Ce serait désastreusement irresponsable et calomnieux.
La noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir, le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression.
C'est le secret des sources sur France Culture et sur franceculture.fr pour tous les commentaires en direct. Bienvenue à tous dans les coulisses de l'information. Tout à l'heure, nous mettrons le cap à l'est, direction la Chine et le Tibet, en ce samedi 10 mars, date anniversaire du soulèvement tibétain de 1959, avec le correspondant de Radio France à Pékin, Philippe Reltien, et dans ce studio, le journaliste Gilles Van Grasdorf, spécialiste du Tibet, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Bonjour.
Bonjour.
Nous verrons comment informer sur le Tibet, territoire interdit aux journalistes étrangers, comment informer en évitant les propagandes. Auparavant, nous vous emmenons dans le grand théâtre secret de la diplomatie à pied d'œuvre en ce samedi sur le dossier syrien, déplacement de Kofi Annan à Damas, consultation au Conseil de sécurité à New York et réunion entre la Russie et les pays arabes au Caire. Nous recevons Daniel Vernet, chroniqueur à Slate.fr, ancien directeur de la rédaction du Monde, spécialiste des questions diplomatiques. Bonjour.
Bonjour.
Et la sémiologue Mariette Darégrand, bonjour également.
Bonjour.
Et nous sommes en ligne avec Aurélien Colli à New York, Aurélien qui couvre en particulier l'ONU pour Radio France. Bonjour.
Bonjour.
Question, quelles sont les sources, les méthodes de travail du journaliste face à l'opacité du milieu diplomatique ?
Bachar al-Assad lost all legitimacy.
Bachar al-Assad a perdu toute légitimité en rejetant la voie du dialogue et des réformes.
France has constantly condemned
la France a toujours condamné ces massacres. La communauté internationale est de plus en plus unanime pour le faire. L'Union européenne renforce aussi ses sanctions contre le régime, mais ça ne suffit pas.
But this is not enough. Faced with the intolerable attitude of
devant l'attitude intolérable d'un régime qui n'a pas honte de ses atrocités, permettez-moi de répéter que le silence du Conseil de sécurité est inacceptable.
Vous avez sans doute reconnu Alain Juppé s'exprimant en anglais à New York lors d'un déplacement au Conseil de sécurité. C'était fin septembre dernier. 6 mois plus tard, le bilan de la répression s'est gravement alourdi en Syrie. Vous le savez, près de 9000 morts en un an. Mais on ne peut pas dire que la situation diplomatique ait beaucoup évolué. Les Occidentaux espèrent obtenir un cessez-le-feu en faisant voter une résolution dans les jours qui viennent. Russes et Chinois demeurent très réticents. Quand on travaille comme journaliste, Daniel Vernet, sur un gros dossier international diplomatique comme celui-là, la Syrie ou bien auparavant, je ne sais pas, l'Iran, l'Irak, quelles sont les sources ? Est-ce que les diplomates parlent directement aux journalistes ? Est-ce que les ministres des Affaires étrangères parlent directement aux journalistes, par exemple ?
Je crois qu'il y a deux sources ou deux manières d'avoir des sources. D'abord, les déclarations officielles, telles que l'on vient d'entendre celles d'Alain Juppé, qui peuvent être plus ou moins, plus ou moins franche. Il y a beaucoup de langues de bois, souvent.
Le fameux
beaucoup
langage
de diplomatique.
Où
il y a des nuances, des sous-entendus, des litotes, etc. Encore que là, ce que l'on vient d'entendre...
Il était plutôt franc du collier.
Était plutôt, direct et franc, comme l'autre jour aussi à la télévision, lors de l'émission sur France 2, on a vu Nicolas Sarkozy traiter Bachar el-Assad d'assassin, qui... C'est pas la langue diplomatique, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors ça, c'est l'aspect officiel, je dirais. Et puis, il y a évidemment les contacts que l'on peut avoir directement avec des diplomates, alors qui parlent, mais sous couvert d'anonymat, et qui ne veulent pas être cités parce qu'ils n'en ont pas l'autorisation, parce qu'ils sont dans des négociations extrêmement difficiles qui pourraient éventuellement capoter parce qu'ils ont parlé, ou inversement d'ailleurs. Inversement, ils peuvent parler pour avoir, une expression publique sans être cité toujours, pour faire avancer une négociation, pour envoyer un signal aux interlocuteurs.
Avec des attitudes qui peuvent aussi varier d'ailleurs d'un individu à l'autre, d'un diplomate à l'autre, d'un ambassadeur à l'autre. Hein. Moi, j'ai souvenir, comme ancien correspondant à l'étranger, d'avoir connu par exemple deux ambassadeurs assez différents, l'un très loquace, puis l'autre pas du tout.
Tout à fait, tout à fait. Ça dépend de la relation de confiance qu'ils ont avec leur interlocuteur, avec un journaliste en l'occurrence. S'ils sont sûrs qu'ils ne seront pas cités, même d'une manière indirecte, en tout cas qu'ils ne seront pas reconnus, peut-être ils seront plus franc, plus direct, plus ouvert que s'ils se méfient un peu de leur interlocuteur qui, pour faire un scoop. Et puis maintenant, il y a le problème des blogs. Alors, je ne sais pas si on abordera ce sujet, mais parfois, les journalistes se sentent plus libres d'écrire sur leur blog que de parler à la radio dans une émission officielle ou bien d'écrire dans leur journal. Donc, il peut y avoir une méfiance qui
s'établit. C'est-à-dire
que le
fameux petit off du diplomate au journaliste, on va plus facilement le retrouver sur le blog du journaliste.
Exactement, exactement. Et alors, vous avez certains pays, notamment aux États-Unis, où tout est très codifié. Enfin, il y a le background, le deep background. Vous avez le droit de citer, vous n'avez pas le droit de citer, vous avez le droit de faire une citation sans attribution, etc. Donc, tout ça est très codifié.
Beaucoup moins en France.
Beaucoup moins en France, où les frontières, les limites sont beaucoup plus floues. Mais vous voyez souvent dans la presse américaine, par exemple, une personnalité voyageant avec le secrétaire d'État a déclaré, en fait... Tout le monde sait que c'est le secrétaire d'État, mais vis-à-vis de ses collègues russes ou français d'ailleurs, ça ne pourra pas lui être reproché
secret
d'avoir dit une phrase,
voilà,
une phrase un peu plus vigoureuse.
Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe permanent dans le fait que, par définition, l'action diplomatique, elle relève un peu du secret, enfin de l'opacité, si elle veut être efficace, et en même temps, le travail du journaliste, par définition, c'est de dévoiler au grand public ce qui se passe. Donc est-ce que là, il n'y a pas une situation un peu paradoxale pour le journaliste chargé de la diplomatie?
Oui, en tout cas, contradictoire. Il y a deux objectifs qui sont contradictoires. Pour le diplomate, c'est plutôt le secret. Pour le journaliste, c'est plutôt l'information et l'information publique, ouverte. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Mais je crois qu'il y a aussi un intérêt réciproque parfois. Comme je disais tout à l'heure, chez le diplomate, il peut y avoir un moment ou un autre, même au cours d'une négociation extrêmement difficile, un intérêt à laisser fuiter quelques informations sur ce qui se passe pour exercer une pression indirecte sur les interlocuteurs. Et on voit très bien à l'ONU, par exemple, quand il y a une négociation très dure, comme c'est le cas maintenant pour la Syrie, entre les Occidentaux, disons globalement, et d'un autre côté les Chinois ou les Russes, eh bien chacun a intérêt un peu à jouer, c'est une partie de poker finalement.
Alors justement, puisqu'on parle des négociations sur la Syrie à l'ONU, partons précisément à New York.
Mr. President, the Security Council just voted on the draft resolution on Syria. China voted against the resolution. China has all along followed.
Ce qu'on entend là, c'est l'ambassadeur de Chine auprès du Conseil de sécurité justifiant le récent veto chinois sur la Syrie. Aurélien Colli, vous êtes donc en duplex de New York. Comment travaille-t-on à l'ONU? Parce que l'ONU, c'est tout un tas de délégations, de réunions, de briefings multiples, innombrables. Comment on travaille comme journaliste à l'ONU? Comment on fait la part des choses?
Écoutez, c'est un petit peu ce que mon prédécesseur expliquait. Il y a vraiment deux types de manières de récupérer de l'information. Il y a toutes ces réunions du Conseil de sécurité, des commissions, etc., qui sont d'ailleurs souvent retransmises en direct quand elles sont importantes, mais auxquelles on peut éventuellement aussi assister quand elles ne sont pas importantes, quand elles sont moins importantes ou pas retransmises. Et c'est important parce qu'il y a souvent des choses intéressantes qui s'y déroulent. Et puis, il y a toute la partie officielle, c'est-à-dire encore une fois ce qu'on voit à la télé, ces ambassadeurs qui viennent un par un devant les micros, de ce qu'on appelle le fameux speak out après les grandes réunions au Conseil ou à l'Assemblée Générale, où ils viennent faire ces déclarations. Alors ça, c'est ce qu'on voit. Et puis derrière, il y a effectivement tout un travail de réseau, en fait, c'est-à-dire comment, dans cet univers géographique, finalement, qui est le siège des Nations Unies, c'est-à-dire, grosso modo, un pâté de maison avec deux, trois immeubles qui accueillent le secrétaire général, l'Assemblée générale et le Conseil, comment, à l'intérieur de cet espace géographique, où il y a encore des espaces où on peut accéder comme journaliste et d'autres où on ne peut pas parce qu'ils sont réservés aux diplomates, comment dans cet espace restreint, eh ben on arrive à nouer des relations avec les différentes délégations, les différentes missions sur différents problèmes, d'ailleurs pas forcément ceux qui sont toujours à la une de l'actualité comme la Syrie, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent à côté, par exemple Haïti où l'ONU est très impliquée, et là on réussit à avoir des informations en nouant des contacts, et puis généralement, eh bien, ces contacts nous amènent à d'autres contacts, etc. Juste pour rebondir, il y a quelque chose qui est très intéressant sur les blogs. C'est très intéressant aujourd'hui, grâce à Internet, de pouvoir aussi aller justement voir les blogs, parce que c'est très développé aux États-Unis, mais aussi la presse nationale, par exemple la presse indienne en langue anglaise, la presse russe en langue anglaise, qui permet d'avoir des éclairages aussi sur les perceptions nationales de problèmes internationaux. Donc souvent, quand on n'arrive pas, par exemple, à reconstituer les enjeux qui se passent en coulisses, les discussions, ça peut être très intéressant d'avoir aujourd'hui accès à ces perceptions nationales qui permettent de mieux comprendre les problématiques de chaque intervenant et donc leur position ensuite officielle.
Alors, précisément sur cette question de on va dire du presque du nationalisme de la presse, on voit bien que la tentation parfois c'est aussi de jouer l'éternel remake du bon et des méchants. Par exemple, bon, discours médiatique dominant à l'Ouest aujourd'hui, c'est en gros le méchant c'est la Russie parce que la Russie c'est l'allié de Bachar el-Assad et qu'elle le soutient militairement, économiquement, diplomatiquement. Et c'est le thème cette semaine du clin d'œil de Yacine Bouzard qui, comme toujours, se promène quelque part dans le secret des sources.
Parce que je vous rappelle au Conseil de sécurité, 13 États membres sur 15 ont voté la résolution. Il n'y a que la Russie et la Chine qui s'y sont opposés. Donc je crois que ce n'est pas une bonne chose pour la Russie de s'isoler à ce point. Et par ailleurs, son veto fait que le massacre continue.
Les États-Unis sont furieux. Aujourd'hui, le courageux peuple syrien peut à présent voir clairement qui, dans ce Conseil, soutient son aspiration à la liberté et aux droits universels, et qui ne le fait pas.
L'idée de corridor humanitaire défendue par la France se heurte toujours au refus de la Russie, alliée indéfectible de la Syrie.
L'opposition militaire syrienne reçoit des signaux très clairs de l'Ouest et des États arabes les moins démocratiques de la région. On dit à l'opposition, allez-y, continuez à vous battre, on est derrière vous. C'est pourquoi la responsabilité de la mort de toutes ces victimes à Homs n'incombe pas seulement au régime de Bachar al-Assad, mais aussi à l'Ouest et à une partie du monde arabe.
Les dirigeants russes ont eu le sentiment d'être joués par les dirigeants anglais, français et américains sur la question de la Libye. Ils avaient soutenu une résolution aux Nations Unies qui a été interprétée par la France et par la Grande-Bretagne comme leur donnant le droit d'intervenir en Libye. Et ça, ça crée un précédent. À partir du moment où le gouvernement russe craint un nouveau précédent, eh bien, il y aura une attitude de blocage absolu.
Les Occidentaux, Alain Juppé, l'Américaine Susan Rice, puis la réponse russe, Sergei Lavrov, l'analyse de Jacques Sapir aussi. Est-ce qu'il n'y a pas de fait, Daniel Vernet, pour prolonger le propos d'Aurélien Colli, dans chaque pays, une tentation de chaque presse, et donc de chaque presse diplomatique, de suivre d'abord la diplomatie de son pays et d'écouter ce que dit cette diplomatie sans écouter nécessairement ce que dit celle du voisin ou celle d'en face?
Alors la tentation existe certainement. C'est aussi peut-être une facilité dans une certaine mesure. Comme on le disait, l'information, les sources sont beaucoup fondées sur des réseaux et il est certainement beaucoup plus facile pour un journaliste français d'avoir un bon réseau dans la diplomatie française parmi les diplomates français, que ce soit à l'ONU ou ailleurs, qu'avec des pays étrangers. On le voit aussi, non seulement à l'ONU, mais aussi, par exemple, à Bruxelles, dans les réunions de l'Union européenne, où la presse française est essentiellement informée par les dirigeants français.
Alors que ce n'est pas très compliqué d'aller assister aux conférences de presse des voisins,
c'est
quand même. Hein. C'est dans la pièce d'à côté, généralement.
C'est vrai, ce n'est pas difficile. Les journaux ou les organes de presse, les médias qui ont de gros moyens, peuvent avoir plusieurs journalistes qui peuvent aller dans plusieurs conférences de presse. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, c'est souvent plus facile. Et puis, il faut dire aussi que quand il y a ce qu'on appelle des briefings, alors off, on revient au fameux off-on, de délégations étrangères, disons, souvent, c'est réservé à la presse du pays en question ou parfois aux correspondants étrangers, mais dans le pays en question. Et donc, ça limite, ou en tout cas, ça encadre en tout cas la manière dont on est informé. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais comme il vient d'être dit, c'est fondamental, par exemple, de lire la presse russe en anglais ou autrement, pour essayer de décrypter effectivement les raisons pour lesquelles la Russie s'oppose aujourd'hui à une résolution vigoureuse.
Parce que de fait, par exemple, en l'espèce, la Russie et la Chine ont des arguments. Après, il ne s'agit pas de soutenir évidemment Bachar al-Assad, c'est pas ça que je veux dire, mais ils ont des arguments économiques, géopolitiques, etc.
Tout à fait. Et l'argument qui vient d'être donné, à savoir que les Russes et les Chinois ont l'impression d'avoir été trompés au moment où la résolution 1973 sur la Libye a été votée, c'est un bon argument. C'est un argument qu'on ne peut pas rejeter comme ça d'un revers de main et dire effectivement les Russes, les Chinois, ils sont méchants et ils soutiennent Bachar al-Assad. Ils n'ont pas beaucoup de considération pour les victimes civiles en Syrie. C'est vrai d'autre part, je pense. Mais ce n'est pas la seule raison.
Ça renvoie aussi, Aurélien Colli, à New York, au fait que tous ces dossiers internationaux sont des dossiers extrêmement complexes, des sujets extrêmement complexes, et que d'un autre côté, on sait très bien que la tentation médiatique est toujours de simplifier, d'avoir un discours, on va dire, qui dit il y a le bon, il y a le méchant. En réalité, il y a rarement le bon et le méchant.
Oui, alors, quand qu'on fait de la radio, par exemple, c'est un peu différent en presse écrite, mais pour la télévision et la radio, on est sur des formats très courts. Expliquer en 1 minute 10 la position au sein du Conseil de sécurité de 15 pays, c'est-à-dire non seulement celle des 5 puissances permanentes, c'est-à-dire les États-Unis, bon, la France et l'Angleterre, ça va à peu près pareil, même sur la Russie notamment et sur la Chine, leurs positions par rapport à la Syrie sont exactement les mêmes, expliquer tout ça. Et puis derrière, quand même, au Conseil de sécurité, il y a aussi 10 membres non permanents qui représentent des entités régionales qui ont de plus en plus de poids aujourd'hui, par exemple le Brésil pour l'Amérique latine, par exemple l'Afrique du Sud. Tout ça à expliquer, c'est extrêmement compliqué et c'est aussi difficile pour les auditeurs d'avoir à la fois en tête une certaine continuité au suivi des dossiers, en même temps les mécanismes internes de l'ONU, l'Assemblée générale, c'est pas le Conseil de sécurité, c'est pas Ban Ki-moon, etc., etc. Et donc de pouvoir, comme ça, suivre réellement l'évolution jour après jour, qui est quelquefois minime dans la diplomatie, c'est un détail, pas forcément intéressant, mais de pouvoir suivre la continuité des dossiers de façon à pouvoir, à la fin, quand l'affaire est terminée, si je puis dire, reconstituer, comprendre et savoir exactement qui dit quoi. Sur l'exemple sur la Syrie, c'est caractéristique. La position russe et la position chinoise n'est pas exactement la même. Les Chinois sont extrêmement inquiets à cause de ce que vous disiez, c'est-à-dire le précédent libyen, mais ils n'ont pas les intérêts stratégiques que les Russes ont aujourd'hui en Syrie. Donc la position russe n'est pas exactement celle de la Chine. Est-ce qu'on peut, en 1 minute 15, expliquer ces différences? Non, parce que c'est vrai qu'on parle à des médias français, des journalistes français, des auditeurs français, qui sont principalement quand même intéressés par le point de vue français sur ce problème.
Daniel Vernet et Aurélien Colisson dans Le Secret des Sources sur France Culture ce matin pour réfléchir sur les conditions du travail journalistique dans les grands dossiers diplomatiques comme celui de la Syrie. C'est évidemment à débattre, à commenter, à podcaster sur franceculture.fr. Dans un instant, place comme toujours vers 8h30 à la distance de l'analyste. Et aujourd'hui, c'est donc la sémiologue Mariette Darré-Grand qui est avec nous. Arrêtons-nous peut-être d'abord, Mariette, sur le vocabulaire, puisque c'est aussi votre spécialité. Il y a deux, on les a entendus lors des dernières minutes, deux vocables clés de la diplomatie que la presse s'est appropriée. C'est résolution, les fameuses résolutions du Conseil de sécurité, et puis communauté internationale.
Oui, alors évidemment, la question du vocabulaire, sur tout ce que vous avez abordé là, elle est clé. Et on sent que les journalistes sont, comment dire, sont très précautionneux, font très attention. Alors, ils ont une première attitude qui consiste finalement à respecter certainement un peu trop le vocabulaire codé qui est là, mais parce qu'il faut faire attention avec le langage de la diplomatie. Alors, c'est vrai, il y a deux termes qui reviennent tout le temps. Résolution, c'est le terme de l'ONU. Ça veut dire un acte pris, enfin voté par l'ONU, mais finalement, ça devient une sorte de mot fixé, lexicalisé, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et dans bien des cas, il faudrait réexpliquer, décrypter, réexpliquer. Un travail pédagogique qui prend du temps, en effet, mais qui permet aussi de varier un peu la parole. De même, avec communauté internationale, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un terme qui est tout à fait vide aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, la communauté internationale ? Donc on a l'impression que là, c'est la langue de l'ONU, l'ONUsisme, et qui pose un problème. Alors, les journalistes, certes, peuvent aller regarder ce que font les autres, ne pas être nécessairement fasciné par la nationaliser, en quelque sorte, par la diplomatie. C'est une façon de faire varier la parole. Mais je voulais proposer quelque chose. Quand on regarde le discours aujourd'hui tel qu'il est, c'est intéressant parce que on peut pas s'empêcher de penser aux différents types de paroles en général. Enfin, je pense aux études d'histoire littéraire. Quand on fait l'histoire littéraire, on voit qu'il y a trois grands types de paroles qui ont toujours existé, qui ont toujours été là. La première parole, c'est l'épos, en grec. Il y a trois façons de dire récit. Il y a l'épos, le logos, le mythos. L'épos, c'est l'épopée. Ils sont dans l'épopée. La guerre, c'est l'épopée.
Oui, parce que ça, c'est l'autre facette de la diplomatie. Enfin, on ne va pas faire du Clausewitz de base, mais en gros, quand même, ce sont les deux facettes souvent du même sujet, diplomatie et guerre.
C'est la guerre, le cadre de référence. Or, c'est précisément ce cadre de référence qui n'est jamais nommé pratiquement par les parties en présence, parce que la langue de la diplomatie, vous l'avez dit, c'est une langue de l'euphémisme, et donc on ne prononce pas le mot. Là, sur la Syrie, c'est étonnant, le mot n'est pas prononcé. C'est très rare, et lorsqu'il l'est prononcé, c'est un acte. Quand, par exemple, le ministre des Affaires étrangères anglais parle de crimes de guerre, et bien alors à ce moment-là, il prend position. Donc on voit bien que les journalistes ne veulent pas prendre position, ne s'autorisent pas à le faire, ils ne peuvent peut-être pas. Mais du coup, il y a un implicite très fort. Donc la langue de l'épopée, ça les brûle de l'employer, et parfois ils devraient l'employer. Sinon, ce sont des écrivains, en effet, qui vont sur le terrain et puis qui l'emploient. Et à ce moment-là, ils passent à côté d'une mission formidable du journalisme. Enfin, Je ne les accuse pas parce qu'ils sont dans une restriction. La deuxième langue, c'est celle du logos, d'expliquer. Et alors là, sur des sujets comme ça, qu'est-ce que c'est complexe? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas, nous, le grand public là,
c'est ce que disait Aurélien Colli à l'instant.
Ah oui, oui, oui. Alors là, ne
pas... La frustration.
La frustration parce que les formats sont courts, mais tant pis, de temps en temps, il faut prendre un mot, ne faire qu'une minute sur un mot, et tant pis, nous l'expliquer. Troisième parole, c'est le mutos, c'est-à-dire le mythe. Il y a de l'imaginaire là-dedans, il y a des gens qui souffrent, il y a de... Et alors, ne pas laisser cet imaginaire simplement au sensationnalisme ou au récit de guerre, je pense au choc des photos, et vous voyez ce que je veux dire. Il y a cela dans la presse, et dans la presse écrite noble, il y a rarement... Alors peut-être justement si un Jonathan Little y va, etc. Mais c'est dommage que le journaliste ne fasse pas aussi référence à cet imaginaire-là qui est derrière. C'est le monde dont il faut nous parler.
Daniel Vernet, est-ce que les journalistes qui traitent ces sujets-là sont d'une certaine façon trop manque de distance, enfin, ou sont trop fascinés par leur sujet épique, pour reprendre la formule de Marianne Darigrand?
Alors je pense que les journalistes qui traitent les affaires diplomatiques ont cette distance, mais qu'on parle aussi, notamment quand vous parlez de l'épopée et de la guerre, il ne faut pas oublier aussi les journalistes qui sont sur le terrain. Et là, effectivement, peut-être que la distance dans ces moments-là n'est pas suffisante. Je veux dire que c'est deux genres journalistiques différents.
Mais est-ce que ça ne conduit pas à être trop respectueux des codes diplomatiques?
Alors, justement, vous avez employé le terme précautionneux. Est-ce que c'est une critique? Je ne suis pas sûr. Je pense que d'être précautionneux, quand on parle d'une situation aussi complexe, ce serait plutôt une qualité.
Je prendrais peut-être l'exemple du mot violence, par exemple. Le mot violence qui est employé beaucoup, d'une façon générale, dans le discours médiatique, et là, sur la Syrie, par exemple. Or, dire violence, c'est confusant. D'ailleurs, ce sont des mots de la diplomatie. Les diplomaties chinoises et russes parlent de violence, par exemple, alors qu'il s'agit d'actes de guerre, et ou le vocabulaire presque de la manifestation, les manifestants, etc. Alors que de quoi s'agit-il? D'une sorte de guerre civile qui est en train...
Oui,
voilà,
c'est
ça.
C'est le cas,
donc
cas, oui.
On voit bien que l'euphémisation, parler de violence alors qu'il s'agit de guerre, c'est un euphémisme, est problématique. Alors c'est très paradoxal parce que par ailleurs, le vocabulaire de la guerre, pour nous en Europe, sur d'autres sujets, nous avons tendance, d'une façon générale, à l'employer beaucoup. Et par exemple, la semaine dernière, quand Nicolas Sarkozy
Bayonne,
a été embêté à Bayonne. Il y a eu ce
là,
mot d'exfiltration.
Guerre,
non, mais d'exfiltration, ouais, au moment même où était exfiltré.
Un vocabulaire
donc,
guerrier. Ouais.
Donc on voit bien que c'est difficile, mais je nous mets tous dans le même panier. C'est très difficile pour notre mental de voir exactement où est la guerre.
Je voudrais qu'on aborde aussi un autre chapitre dans cette relation du journaliste au diplomate. C'est inévitable, c'est Wikileaks.
Il peut y avoir également dans ces documents des choses qui mettent en cause la propre sécurité personnelle. Et c'est là où je dis, c'est quelque chose qui est éminemment irresponsable de la part de ceux qui font ça, donc je ne comprends pas d'ailleurs exactement ce qu'est le but.
Michel Alliot-Marie, alors ministre des Affaires étrangères, critiquant sur France 24 fin 2010 la publication de ces milliers de télégrammes diplomatiques par la presse via Wikileaks, publication notamment par Le Monde en France. Est-ce que ça a changé la donne dans la relation du journaliste au monde diplomatique, Daniel Vernet, cette affaire?
Pour un temps, oui. Je pense que ça s'est un peu maintenant atténué et que c'est un souvenir qui n'est pas brûlant, en tout cas dans la tête de la plupart des diplomates qui se disent « Oh là là, mais si jamais il y a une nouvelle affaire Wikileaks, il vaut mieux que je ne parle pas ». Je crois que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais dans l'immédiat après les publications qu'il y a eu à peu près dans le monde entier, je pense que ça a pu jouer un rôle, oui.
Qu'est-ce que vous retenez de cet épisode? Est-ce que c'est l'incarnation de la transparence ou est-ce que c'est d'une certaine façon l'image du vide? Parce que d'une certaine façon, on n'a pas appris grand-chose non plus quand même. Hein. On a appris juste la confirmation de ce qu'on soupçonnait,
oui.
Grosso modo, dans ces messages diplomatiques.
Si, c'est une forme de transparence. La question est plutôt, est-ce que la transparence totale est une bonne chose et positive? Là, moi, je mettrais un grand point d'interrogation.
Et quel rôle doit jouer le journaliste dans cet exercice de transparence?
Mais évidemment, je crois qu'on ne peut pas reprocher aux journalistes et aux journaux qui ont publié les télégrammes, ou certains télégrammes, parce qu'il y a eu un tout petit pourcentage de tous les télégrammes que Wikileaks auxquels Wikileaks avait eu accès, un tout petit pourcentage qui a été publié. Mais on ne peut pas reprocher aux journaux qui l'ont fait d'avoir publié, parce que ce serait contraire au métier de journaliste.
Même.
journaliste, au principe même du journalisme, quand il y a des informations, bon, quand elles sont vérifiées, etc., avec certaines précautions, on les publie. Et les précautions, et là, Mme Alliot-Marie avait à la fois raison et tort, une des précautions, c'était que les sources, les interlocuteurs ne puissent pas être identifiés. Or, les journaux qui ont publié les télégrammes de Wikileaks ont bien pris soin de faire en sorte que les interlocuteurs ne puissent pas être identifiés.
Est-ce que ça a désacralisé ce théâtre, a priori grandiloquent et impressionnant, des tribunes diplomatiques ?
Oui, ça a peut-être désacralisé les télégrammes diplomatiques. On s'aperçoit effectivement que ces télégrammes qui sont classés secrets, ultra-secrets, je ne sais pas, bon, bah, ma foi, ne contiennent pas des choses bouleversantes. Et en effet, on n'a pas appris, on a eu plus de confiance que de véritables scoops.
Les journalistes face à la crise diplomatique sur la Syrie. Dans le secret des sources sur France Culture, vous prolongez le sujet avec vos commentaires comme chaque semaine sur notre site sur franceculture.fr. On a évoqué au passage dans ce débat onusien le rôle de la Chine. Eh bien, on va parler à nouveau de la Chine dans un instant et plus particulièrement du Tibet. Avec en guise d'introduction ces quelques notes du groupe de rock tibétain Namchak. Ce 10 mars, jour anniversaire de la grande révolte tibétaine de Lhasa en 1959, on s'attend donc aujourd'hui à des tensions au Tibet, ce vaste territoire grand comme 4 fois la France dans le sud-ouest de la Chine, territoire où, vous le savez, la culture tibétaine est sévèrement réprimée par le pouvoir central chinois. Le chef spirituel tibétain, le Dalai Lama, est en exil depuis 1959. En 2008, la répression des émeutes a été sanglante et ces dernières semaines, ces derniers jours encore, plusieurs moines se sont immolés en gestes sacrificiels de protestation. Toute la difficulté pour le journaliste, on va le voir, c'est tout simplement de parvenir à s'informer. Avec nous donc Gilles Van Grasdorff, journaliste notamment pour la presse luxembourgeoise, auteur de nombreux livres sur le Tibet. Rebonjour.
Rebonjour.
Mais d'abord, au son d'un autre célèbre musicien tibétain, Tenzin Gonpo, nous allons partir à Pékin. Philippe Reltien, bonjour.
Bonjour Jean-Marc.
Vous êtes le correspondant de Radio France à Pékin. J'ai une question toute simple. Est-ce vraiment mission impossible pour un journaliste étranger de se rendre au Tibet, à Lhasa ?
On ne peut pas entrer en tant que journaliste dans la région autonome du Tibet depuis les émeutes du 14 mars 2008. On pouvait y aller en groupe de touristes jusqu'à l'automne dernier. Et maintenant, ce n'est plus possible. On peut aller en tant que journaliste dans les provinces voisines, où vivent plus d'un million de Tibétains, mais on ne peut pas aller partout.
Si on passe outre, il se passe quoi ? On est contrôlé et on est refoulé, c'est ça ?
Si on passe outre, par exemple, si on est caché dans un véhicule, hein, ou qu'on essaye d'y entrer par des voies détournées, on a toutes les chances d'être pris, de devoir faire écouter ou de faire voir ces enregistrements, et on vous demande de les effacer. Voilà ce qui va se passer.
Et il n'y a pas ou il n'y a plus de, entre guillemets, voyage officiel organisé par les autorités chinoises pour les journalistes étrangers au Tibet.
Si, il y a des voyages officiels sans journalistes étrangers au Tibet. Par exemple, le jour même du Nouvel An tibétain, le chef du parti communiste local est allé visiter ce monastère de Kirti, d'où sont parties les immolations, dans le comté d'Aba, qui est environ à 500-600 km au nord de Chengdu.
Alors, il y a donc un plan B qui est moins satisfaisant, mais tout de même intéressant. C'est ce que vous avez fait il y a quelques jours. Vous êtes allé dans le Sichuan voisin, à Chengdu, et vous avez, par exemple, rencontré ce moine tibétain au son de cette conque tibétaine.
Ngem mengina kam zonlop sekyo.
Je suis un moine tibétain, je me vois un peu comme cette mouche au fond du verre en train de se noyer. On se sent vraiment très très mal parce que le peuple tibétain n'a pas de liberté. Nous n'avons pas de liberté religieuse, nous n'avons pas la liberté de parole, nous n'avons pas une liberté de notre culture et de notre langue. C'est pourquoi certains moines se suicident. Nous sommes comme des enfants qui ont été séparés de leur mère, et quand un enfant est privé de sa maman, il ne sait pas quoi faire. Il fera un peu n'importe quoi, même des choses étranges, même jusqu'à en perdre la vie, parce que, comme cet enfant, nous sommes coupés de notre mère.
Là, dans le Sichuan voisin, à Chengdu, quelle est la marge de liberté, Philippe Reltien? Par exemple, interviewer, rencontrer ce moine, ça se passe comment? C'est facile? C'est compliqué?
Alors là, ce sont deux moines. Celui qui souffle dans la conque est exactement au carrefour des deux rues qui forme le quartier tibétain de Chengdu. C'est important parce que c'est la grande ville et c'est là où tous les Tibétains débarquent. Et à côté de ce carrefour, il y a un magasin de souvenirs. À l'intérieur, il y a un moine en robe, c'est facile à le voir parce qu'il n'y a pas de touristes en ce moment dans ce quartier. Et je vais apprendre qu'on n'a pas le droit d'enregistrer avec un micro dans le quartier tibétain sans autorisation préalable du bureau de la propagande, que les moines tibétains n'ont pas le droit de parler aux étrangers et qu'on doit poser ces questions à l'avance, à la police. Et aussi...
On est très contrôlé, oui, Philippe, mais en même temps, on arrive au bout du compte, finalement, à décrocher quand même des bouts d'interview ici et là.
Mais on peut, parce que si on sort de ce quartier, puisque tout est une question de règles, si on sort de ce quartier, bah, vous pouvez aller jouer avec qui vous voulez dans une salle de mahjong, aller prendre le thé à l'autre bout de la ville avec un moine. C'est pas compliqué du tout, c'est compliqué pour lui. Parce que lui va devoir sortir. Et donc, il doit sortir du quartier tibétain. Et tout moine, tout religieux est épié, suivi. Ses conversations sont écoutées. Alors, c'est lui qui prend. C'est lui qui prend de gros risques.
Gilles Van Grasdorff, vous confirmez?
Oui, tout à fait. C'est absolument dramatique aujourd'hui. Depuis 2008, mais même avant, auparavant, les informations passent mal. Et lorsqu'on est journaliste...
On ne peut juste pas faire son métier, quoi.
On ne peut pas faire son métier, mais en plus, il faut savoir que la plupart des moines en Chine, qui sont donc des bouddhistes tibétains ou autres, sont membres du Parti communiste chinois. Donc ils ne peuvent pas devenir moines s'ils ne sont pas membres du parti. Donc déjà, là, il y a un gros problème. Ensuite, c'est vrai que ce sont eux qui risquent leur vie. Il est très difficile.
Même dans le Sichuan, à un côté, c'est très compliqué.
Tout à fait, oui, tout à fait. Et au Tibet même, les dernières informations que moi j'ai reçues du Tibet, mais via un groupe d'informations dont je ne peux pas citer donner mes sources le nom, malheureusement, oui. Mais les derniers événements, il y a de quoi s'effrayer parce que tout est sous contrôle, il y a une chape de plomb. C'était déjà le cas au moment des Jeux Olympiques et c'est devenu de plus en plus dur depuis que le Dalai Lama a annoncé son retrait politique donc au mois de mars l'année dernière et ensuite que Lobsang Tsangay est devenu Premier ministre du gouvernement en exil.
Alors, quand on pense censure, verrouillage, etc., on se dit toujours, et on le fait fréquemment dans cette émission, qu'il y a un moyen de contournement, c'est Internet et le multimédia. Et c'est vrai que c'est souvent le cas dans plusieurs pays du monde. Bonjour Éric Chavroux.
Bonjour.
Comme chaque semaine, notre spécialiste du multimédia, la censure, le verrouillage total, dans le cas d'espèce, ça vaut aussi pour Internet.
Oui, c'est assez saisissant à quel point aussi le Tibet peut être totalement coupé du monde en ligne. Il y a un écho récent de Reporters sans frontières qui décrit bien ça, qui décrit qu'à la demande d'un responsable du Parti communiste, il y a eu des coupures et des téléphones portables et d'Internet. Il faut savoir qu'en 2010, il y avait près de la moitié de la population au Tibet.
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'internautes, en réalité.
Voilà, qui accédaient au web. Et puis, cet isolement sont aussi des forums et des blogs en langue tibétaine qui sont souvent, d'ailleurs, basés en Chine et qui se retrouvent subitement inaccessibles. avec même parfois pour certains en page d'accueil des avertissements en chinois pour dire que attention à ce que vous postez en fait, et on n'oublie pas les traditionnelles arrestations de journalistes, d'écrivains et puis de blogueuses. Il y a une blogueuse qui s'appelle Tsering Wozer qui a été assignée à résidence comme ça à Pékin pour là tout le mois de mars.
Il y a quand même un journaliste, et ça a fait forcément le tour du web, comme on dit en bon français, c'est le journaliste du Guardian, Jonathan Watts, qui lui est parvenu à entrer au Tibet il y a peu de temps.
Voilà, alors c'est une vidéo absolument exceptionnelle. Il a réussi à arriver jusqu'à la ville d'Aba, dont parlait Philippe Reltien tout à l'heure. Tout à fait interdit, hein. Il a franchi plusieurs barrages. Et puis, il s'est approché donc, du monastère de Kirti, où ont eu lieu plusieurs immolations. Et écoutez le son donc, de cette vidéo.
Je suis dans cette strange position parce qu'il y a des personnels de sécurité partout.
Alors donc, il est couché en fait dans la voiture, caché pour ne pas être repéré, et il nous décrit le déploiement absolument impressionnant autour de lui, qu'on voit à l'image, hein, de policiers, de civils, de volontaires en civil, de paramilitaires, équipés d'extincteurs au cas où il y ait de nouvelles immolations, et puis aussi de bâtons à pointe pour pouvoir bastonner d'éventuels manifestants. C'est l'enfer. Il nous raconte ça et on pourra voir la page
sur franceculture.fr,
voilà,
sur
la séquence dans sa globalité, parce que c'est vraiment un témoignage incroyable.
Alors, il y a une autre source, évidemment, Gene Van Grasdorf, c'est le gouvernement chinois, on va en parler dans un instant, mais c'est la communauté tibétaine en exil. Quel est pour vous son degré de fiabilité pour le journaliste?
Il faut être très prudent, notamment lorsqu'on est à Dharamsala. Il faut savoir que...
En Inde, donc.
Dans l'état de l'Himachal Pradesh, donc à 200 km à vol d'oiseau du Tibet. Il faut être très prudent parce que depuis 1960, et peu de journalistes le savent et peu d'informations passent à ce sujet, depuis 1960, le Dharamsala a toujours été infiltré par les communistes. Donc, lorsqu'on rencontre des Tibétains réfugiés qui ont fui le Tibet, qui sont des moines, qui ont été torturés, eh bien, il faut pratiquement avoir les mêmes, prendre les mêmes précautions que lorsqu'on est de l'autre côté au Sichuan. Moi, j'ai rencontré une jeune nonne qui a été torturée pendant des années dans les Laogai, parce que cette nonne était dans un monastère qui appartenait au Panchen Lama, qui a disparu depuis 1995. Et ce Panchen Lama qui doit désigner normalement le prochain Dalai Lama. Et ce gamin qui avait 5 ans a disparu, devenant le plus jeune prisonnier politique du monde, eh bien une chape de plomb s'est abattue et sur son monastère et sur cette partie du Tibet.
Mais est-ce que cette communauté tibétaine en exil, elle n'est pas non fiable pour d'autres raisons aussi? C'est-à-dire que, d'une part, elle est en exil. Donc, par définition, elle ne sait pas nécessairement ce qui se passe au Tibet même, puisqu'elle est en exil. Hein, premier élément. Et deuxième élément, elle a forcément un agenda politique, puisqu'elle a une demande politique. Donc, de ce point de vue-là, est-ce qu'elle constitue une source vraiment fiable aussi pour le journaliste?
Le problème vient
quand bien
aussi
même elle
de...
ne serait pas infiltrée
oui,
par...
Le problème vient aussi du Dalai Lama, n'est-ce pas? Qui, à force de... Je vais tuer peut-être un petit peu le mythe, mais je crois que c'est nécessaire. Aujourd'hui, je crois qu'à force de parcourir le monde pour parler de compassion et de tolérance, en prenant beaucoup d'argent, en oubliant son peuple, en démissionnant lâchement de son statut de chef d'État, statut que les Dalai Lama possèdent depuis le XVIIe siècle, je crois que le gros problème vient aussi donc du Dalai Lama et de son gouvernement en exil. Il faut savoir que depuis 1960, le Dalai Lama avait promis de démocratiser son gouvernement en exil. Il y est parvenu l'année dernière seulement. Ce sont les mêmes clans qui se partagent les pouvoirs depuis la nuit des temps, depuis que le
royaume tibétain... Oui, parce que le modèle tibétain, entre guillemets, voilà. Il y aurait beaucoup à dire sur son caractère démocratique.
Il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, ils ont la même pratique que les communistes, quelquefois, au niveau de l'information par rapport aux journalistes.
Donc on est pris entre deux propagandes, c'est ça que vous voulez dire, d'une certaine façon.
Alors, si on tape trop fort sur le côté, sur le Dalai Lama, on assassine le mythe et donc on n'obtient pas les informations que l'on veut de la part du gouvernement. Et de l'autre côté, moi, je suis davantage pour l'aide et le soutien, l'information pour aider la résistance tibétaine, les jeunes tibétains.
En face, il y a donc l'autre source officielle, celle du gouvernement chinois. On va retrouver à ce propos Philippe Reltien à Pékin dans un instant. Mais d'abord, je voudrais vous faire écouter un document étonnant, révélateur. Radio Chine internationale en français, sur précisément les récentes immolations de moines tibétains.
Tour d'horizon, l'actualité chinoise et internationale.
Bonjour à tous. Chers auditeurs, nous vous invitons à écouter un reportage intitulé « L'immolation de certains moines tibétains a été incitée par des séparatistes et des les forces hostiles. Récemment,
voilà, le reportage se poursuit comme ça. C'est donc la version française de Radio Chine Internationale. Donc, on voit bien là qu'on est sur le discours officiel chinois. Quand on est à Pékin, Philippe Reltien, est-ce qu'on est capable de faire, de séparer, si j'ose dire, le bon grain de l'ivraie, de mesurer le degré de propagande chinoise sur la question tibétaine?
Bon, la propagande, elle se déchaîne en ce moment. Je vous en ai donné quelques exemples. On entend ce que dit la radio. Les Chinois ici essayent de tout dénoncer en disant c'est orchestré par le Dalai Lama, en disant que il y a des gens qui payent les candidats au suicide, on voit les choses absolument atroces dans la propagande chinoise en ce moment. Hier, on lisait dans Global Times un article sous la plume d'un pseudo-journaliste qui disait mais pourquoi le Dalai Lama s'immole pas par le feu lui-même. Alors, leur théorie un peu, théorie du complot, enfin, c'est un peu malade comme réflexion, mais l'argumentation, c'était que pourquoi le Dalai Lama s'immole pas par le feu? Parce que, continuait-il, l'image du Dalai Lama qu'il a rendu sympathique dans le monde entier, c'est l'image de la non-violence. Donc, il ne pourrait pas lui-même s'immoler par le feu. Mais il incite les autres. Voilà. Bon, donc on a une propagande atroce côté chinois en ce moment, qui permet surtout, de prendre ses distances, de aussi de convaincre l'opinion publique chinoise qui maintenant commence à savoir tout ça, que faut tout simplement pas s'y intéresser, c'est de la politique, c'est comme ça qu'on leur vend l'histoire.
Gilles Van Grasdorff, quel est votre sentiment sur la perception que les Chinois ont du sujet à travers leur accès à leur presse?
Vous savez, les jeunes Chinois que je rencontre souvent lors de mes conférences, parce qu'ils me suivent parfois quand je tourne en Europe, ce sont des jeunes qui sont formatés à l'idéologie communiste. Donc ce sont des jeunes qui ont 40 ans, 50 ans, des gens qui ont fait des études et qui disent que le Tibet appartient à la Chine depuis historiquement. Donc ils ne connaissent que cette version et ils n'en changeront jamais.
En même temps, ils sont bien forcés de constater qu'il y a une contestation, quand même. Enfin...
Bien sûr. La contestation de la part des Chinois vient de gens qui sont réfugiés. Wai Jinseng, Areo, qui a une fondation du Laogai. Vous savez, quand on a... Le gros problème par rapport au Tibet, c'est que lorsqu'un journaliste rencontre des moines ou des informateurs, eh bien, celui-ci risque... quelques années de laogai, de camps de redressement et de travaux forcés. Dans les laogai, les tortures sont quasi quotidiennes ce sont des tamzing, des autocritiques, et cela va jusqu'à utiliser les prisonniers tibétains pour la vente d'organes.
Est-ce que d'une certaine façon, et ça nous renvoie à notre sujet de tout à l'heure aussi sur les négociations diplomatiques autour de la Syrie, est-ce que ça ne renvoie pas au fait que les journalistes occidentaux en particulier sous-estiment la vision que la Chine a d'elle-même et de, aujourd'hui, sa puissance?
Il faut faire attention avec la Chine. Souvent, on a, même dans le monde asiatique, je crois que la pensée chinoise n'est pas la pensée occidentale. Les droits de l'homme n'existent pas. On appartient à l'État, au pouvoir central, et il n'y a aucune liberté individuelle en Chine. Donc, les Tibétains annexés, occupés depuis 1950, subissent le même sort. C'est plus grave parce qu'en plus, ils ont subi un transfert de population. Si on trouve des Tibétains aujourd'hui dans le Sichuan, c'est parce qu'ils ont été déplacés en 1950, 51, 52, 53. Donc, la population...
Et parallèlement, les Han, donc l'ethnie majoritaire chinoise, sont de plus en plus nombreuses au Tibet.
Oui, tout à fait. Depuis aussi que le train de arrive à Lhasa, venant de Pékin et transportant des colons. Donc, la population à Lhasa, il y a des petits ghettos de Tibétains, mais tout le reste, c'est une ville chinoise.
Et donc, on voit bien quand même, si on se résume, l'extrême difficulté là, du travail du journaliste sur ce sujet, parce qu'il n'y a pas d'accès à la zone, on ne peut pas y aller, et on est pris entre différentes propagandes. Donc, c'est vraiment extrêmement compliqué quand même.
Oui, je crois que surtout il faut je crois qu'il faut surtout bien entendre la jeunesse tibétaine de l'exil. Ce sont des gens qui ont été formés par le Dalai Lama et par la sœur du Dalai Lama et qui
ne sont pas nécessairement le Dalai Lama.
Non, tout à fait.
Assez différents, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Ce sont des jeunes qui ont fait des études en Occident, souvent qui sont avocats, médecins, etc. et qui contestent la politique du Dalai Lama, la politique de non-violence, parce que ces jeunes-là m'ont dit un jour, nous n'avons plus aucun espoir, on ne peut pas retourner au Tibet, et nous sommes persona non grata en Inde. Donc, que nous reste-t-il ? Nous battre ? Et là, la référence, c'est Arafat. Donc, on doit beaucoup s'interroger sur cette question-là.
Gilles Van Grasdorff, un grand merci. On doit pouvoir trouver encore dans les bonnes librairies plusieurs de vos ouvrages sur le Tibet. Je crois que le dernier, c'est l'histoire secrète des Dalai Lama.
Du 15e Dalai Lama.
Voilà.
Merci.
Merci également à Philippe Reltien à Pékin et puis sur la Syrie à Mariette Darigrand, Aurélien Colli et Daniel Vernet qui étaient donc tous ce matin dans Le Secret des Sources. À propos de la Syrie, je vous signale d'ailleurs que tout à l'heure, notre confrère, le photographe William Daniel, serait escapé de Homs avec Edith Bouvier, sera l'invité du journal d'Antoine Maret à 12h30 sur France Culture. Comment informer sur le Tibet et comment travailler sur les grands dossiers diplomatiques comme la Syrie? C'était aujourd'hui dans Le Secret des Sources. Et bien entendu, comme toujours, c'est à commenter, réécouter, podcaster sur franceculture.fr et sur les réseaux sociaux. Merci également à Elisa Leu, Nathalie Lopez et Vincent Abouchard qui étaient ce matin à la manœuvre. Dans un instant, le journal de Stéphanie Scott, puis réplique avec Alain Finkielkraut. Prenez soin de vous, c'est l'heure du rembobinage final du Secret des Sources.
C'est fondamental, par exemple, de lire la presse russe en anglais ou autrement pour essayer de décrypter effectivement les raisons pour lesquelles la Russie s'oppose aujourd'hui à une résolution. Et l'argument qui vient d'être donné, à savoir que les Russes et les Chinois ont l'impression d'avoir été trompés au moment où la résolution 1973 sur la Libye a été votée, c'est un bon argument. C'est un argument qu'on ne peut pas rejeter comme ça d'un revers de main. Et dire effectivement les Russes, les Chinois, ils sont méchants et ils soutiennent Bachar el-Assad. Ils n'ont pas beaucoup de considération pour les victimes civiles en Syrie. C'est vrai d'autre part, je pense. Mais ce n'est pas la seule raison.
On ne peut pas entrer en tant que journaliste dans la région autonome du Tibet depuis les émeutes du 14 mars 2008. On pouvait y aller en groupe de touristes jusqu'à l'automne dernier. Et maintenant, ce n'est plus possible.